Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir préféré à France-Italie. Peut-être de ne pas avoir de télévision, c'est pas ce qui est mon cas. Mais voilà, en tout cas, merci, mais c'est une préférence qui m'oblige, naturellement. Il y a 30 ans, souvenez-vous, c'était presque hier, c'était il n'y a pas très longtemps. Il y a 30 ans, le mur de Berlin tombait, la guerre froide était terminée. Il y a 30 ans, Rostropovitch jouait du violoncelle en bas du mur qu'on commençait à battre. Il y a 30 ans, c'était presque hier, un nouvel ordre international se mettait en place. Il y a 30 ans, le multilatéralisme, avec des institutions comme l'ONU, comme d'autres organisations intergouvernementales, avec l'appoint d'ONG, allait faire régner un monde de paix, un monde de négociation, un monde de compromis. Il y a 30 ans, la démocratie libérale triomphait. La démocratie dans sa version occidentale triomphait. Elle avait gagné les... Pardonnerez ce soir cette métaphore sportive. Elle avait gagné les quarts de finale en 14-18 contre les États autoritaires des anciens régimes. Elle avait gagné la demi-finale contre les États totalitaires fascistes en 39-45. Et puis là, elle gagnait la finale contre l'adversaire qui s'était avéré le plus coriace, le communisme, autre totalitarisme dans sa version soviétique. Elle gagnait. Et un universitaire américain, Francis Fukuyama, écrivait un livre qui s'intitulait « La fin de l'histoire ». Et la fin de l'histoire, ça voulait dire que l'histoire des conflits, l'histoire des guerres, était terminée. Et que tout au plus, il y aurait des conflits commerciaux, mais qu'on rentrait dans un monde de paix. La paix grâce à la démocratie grâce à la paix. Et puis j'oubliais la prospérité économique. C'était l'apogée presque de la mondialisation, là encore dans sa version occidentale. Les marchandises, les capitaux, les idées, les hommes allaient circuler. On était presque dans la réalisation d'un rêve sans frontiériste, hein, finalement. Les nationalismes étaient out, ils étaient devenus ringards. Et maintenant, il allait y avoir une planète Terre, hein, qui allait gouverner ces difficultés, ces défis ensemble. Voilà, c'était il y a 30 ans, c'était hier. Et cette année, 2023, alors cette semaine, il y a eu 50 morts dans la guerre d'Ukraine, des gens qui assistaient à des funérailles. Et parmi ces 50 morts, il y avait un enfant. Mais je vous dis ça pour le dernier événement, je pourrais le dupliquer malheureusement depuis un an à l'infini. Cette même semaine, les forces françaises, appelées par le gouvernement du Niger, il y a plusieurs années, pour lutter contre une menace djihadiste dans le nord du pays, ben, les forces françaises partent à la demande des nouvelles autorités locales. Et cette même semaine, une trentaine de soldats, cette fois-ci au Mali, ont été tués par des djihadistes. Et puis, pas cette même semaine, mais cette même année, 2023, il y a des manœuvres militaires autour de Taïwan. Il y a la Chine qui veut récupérer Taïwan. La Chine qui a même fixé un calendrier. Ce sera fait dès 2049. Certains officiels chinois disent même dès 2035. Voilà. On récupérera Taïwan. On récupérera Taïwan d'une façon ou d'une autre. Et Pékin dit d'une façon pacifique, nous préférons, mais nous prévenons l'Occident. Si ça ne peut pas se faire d'une façon pacifique, ça se fera autrement. Car là est notre droit. Voilà. C'était pas il y a 30 ans, ça c'est aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en 30 ans, cet ordre venu du Nord, j'entends par Nord les pays riches, les pays industrialisés, j'aurais pu dire Occident, mais j'ai préféré le jeu de mots avec le Nord perd-il le monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les valeurs occidentales, les valeurs de démocratie, les valeurs de liberté, finalement aujourd'hui soit contesté et qu'on assiste presque à une forme d'involution. Il y a 30 ans, et pour la première fois dans l'histoire, 55% de la population mondiale vivait dans un État ayant un régime démocratique. Aujourd'hui, on est tombé en dessous de 30%. Évolution, involution. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon bon monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé, ma bonne dame, en 30 ans? Pourquoi? Pourquoi? Ces événements en Ukraine, dans la région sahélienne, je vais m'aider du maître d'instituteur. En Ukraine, dans la région sahélienne, à Taïwan, j'aurais pu citer aussi ce qui se passe dans le Caucase, au Nagorno-Karabakh, évidemment, je ne peux pas tout traiter, mais je suis prêt à répondre à vos questions à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces valeurs occidentales soient aujourd'hui à ce point en recul, contestées? Et soyons très clairs, pour qu'une partie du monde nous haïsse, nous occidentaux, nous pays du Nord, à ce point. Voilà. Alors, est-ce que nous avons fauté? Est-ce que d'autres puissances sont montées et utilisent notre déclin relatif pour nous mettre en accusation et pour manipuler les peuples? Est-ce que nous n'avons plus la volonté, nous occidentaux, de peser sur l'ordre du monde et d'en définir les valeurs de régulation? J'évoque là quelques hypothèses. Quelques hypothèses, et pour non pas y répondre définitivement, mais pour amorcer avec vous le débat qui viendra après, je vais ordonner un petit peu ce que j'ai à dire ce soir en trois points. Je vais d'abord voir tout simplement les événements tels qu'ils sont, et en quoi ces trois régions apparemment éloignées du monde semblent en fait avoir un lien de défi à l'Occident, de contestation des pays du Nord. Dans un deuxième temps, je verrai avec vous les facteurs, les raisons qu'on peut individualiser pour expliquer ça. Est-ce que ça tient à nous? Est-ce que ça tient à eux? Est-ce que ça tient à autre chose? Et puis dans un troisième temps, je voudrais aussi vous dire que les pays du Nord, l'Occident, a encore de beaux restes, et que la messe n'est pas tout à fait dite en matière de déclin ou de disparition de toute la civilisation dont nous sommes porteurs. Premier point, d'abord les manifestations de ce recul de l'Occident et des pays du Nord. Je vais prendre successivement, pour cette première partie, les trois zones que j'ai identifié, qu'avec Ariane nous avons identifié. Naturellement, il n'y a pas le Caucase dedans, mais c'est peut-être un cas un petit peu particulier aussi. Mais on en parlera peut-être après. D'abord, l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, c'est quoi? L'Ukraine, c'est l'Occident attaqué. L'Ukraine, c'est l'Occident attaqué. C'est le retour de la guerre, et c'est le retour d'une guerre offensive. Alors, vous allez me dire, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Ce qui me permet de dire que, à travers l'Ukraine, c'est l'Occident qui est attaqué, c'est qu'il y a un désir d'Occident en Ukraine, depuis 30 ans. Pas tous, mais la majorité des gens de ce peuple veulent rentrer dans l'Union européenne. Ils ont d'ailleurs reçu l'année dernière le statut officiel de pays candidat à l'Union européenne. La majorité des habitants de ce pays veulent que leur pays, à tort ou à raison, la majorité veulent que leur pays rentre dans l'OTAN, parce qu'ils estiment que leur sécurité est là. La majorité des habitants de ce pays veulent vivre dans une Europe définitivement réunifiée et dans laquelle ils auront des richesses à apporter, des idées à soumettre, des comportements politiques ou des visions géopolitiques, voilà, qui pourraient être utiles pour la communauté européenne, pour l'Union européenne. C'est bien l'Occident qui est attaqué. À la suite de deux révolutions dites de couleur et de la couleur orange, le camp des partis politiques pro-occidentaux en Ukraine, à la suite de deux révolutions orange dans les années 2000 et 2010, les Ukrainiens se sont débarrassés de pouvoirs pro-russes, de pouvoirs pro-russes qui trafiquaient les élections, de pouvoirs pro-russes qui ne souhaitaient même pas qu'un accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne soit ratifié. Des révolutions populaires, courageuses, qui ont fait des morts, et qui ont fini par triompher. Et tout ça a été par la suite sanctifié par le, si j'ose dire, le suffrage universel. L'orientation politique de la majorité des Ukrainiens est désormais claire et librement exprimée. Nous n'avons pas à juger sur le fait de savoir s'ils se trompent ou pas. Nous avons juste à constater qu'ils le veulent et qu'il s'agit de leur pays. Ce pays est depuis l'année dernière attaqué par la Russie. Il a été une première fois en 2014, lorsque, vous le savez, la Crimée, dont vous voyez le début ici, et les provinces dites du Donbass, le bassin du Don, ont été occupées par l'armée russe. On peut dire occupées par des milices séparatistes locales. Tout le monde connaît la réalité. Les petits hommes verts sans brassard et sans fanion qui ont occupé la Crimée en 2014 étaient des soldats de l'armée russe. L'avion de la Malaysian Airlines avec 300 personnes à bord qui a été abattu au-dessus du Donbass par un missile. Ce missile, la justice pénale à Amsterdam l'a confirmé puisque la majorité des touristes présents dans l'avion étaient néerlandais. Ce tir de missile ne venait pas des zones séparatistes. Il venait donc d'une éventuelle milice. Il venait de l'armée russe. La Russie a déclaré la guerre à l'Occident, derrière l'Ukraine. À ses valeurs, à ses principes, au respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au respect aussi du principe d'intangibilité des frontières, en tout cas de leur non-modification par la force, sans laquelle il n'y a pas d'ordre international possible. Voilà. Il y a bien des motivations à l'agression russe. Si j'étais russe, pro-russe, je pourrais vous dire que l'extension de l'OTAN vers l'Est de l'Europe, je pourrais vous dire que le rôle des ONG occidentales dans les révolutions de couleur en Ukraine, pro-occidentales, que tout ça pouvait représenter une menace pour la Russie. Après, il y a l'agression brute. Il y a ce qui s'est passé en Crimée en 2014, et puis il y a le début de la guerre généralisée contre tout le territoire ukrainien en 2022, avec au départ l'objectif de subjuguer, au sens propre du terme, placé sous le joug, de subjuguer l'ensemble de l'Ukraine. Donc de la faire disparaître de la carte. Et ensuite de la dépecer par morceaux, quand le premier objectif n'a pas pu être atteint par les armes. Comme on dit dans les films, hein, toute ressemblance avec les années 30 serait purement fortuite. L'Occident est attaqué en Ukraine dans ses valeurs démocratiques. L'Occident est attaqué aussi, en tout cas l'Occident européen est attaqué aussi parce que la construction européenne s'est bâtie sur la paix. Elle s'est bâtie sur un idéal de paix, sur un idéal de plus jamais les guerres fratricides en Europe. Et d'ailleurs, la construction européenne, on aura l'occasion d'en reparler, a joint le geste à la parole en se désarmant depuis la fin de la guerre froide. Il y avait 5 millions de soldats de l'OTAN au moment de la fin de la guerre froide sur le continent européen. À la veille de la guerre déclenchée par Poutine contre l'Ukraine, il n'y en avait plus qu'un million et demi. Je rentre presque dans les facteurs explicatifs de la deuxième partie. Donc l'Europe, c'était la paix, c'était le soft power, comme on dit. L'influence politique, l'influence économique, l'influence des idées, des combats, mais plus de combats par le hard power, par les armes. ça aussi, s'est attaqué par l'invasion russe de l'Ukraine. Et je passe le fait que des accords internationaux ont été foulés aux pieds. Le mémorandum de Budapest de 1994, qui en échange de la récupération par la Russie des armes nucléaires implantées pendant l'ère soviétique en Ukraine, garantissait la souveraineté et l'intégrité territoriale du territoire ukrainien. Les diplomates russes ont apposé leur signature à cet accord international. C'est le droit international qui est attaqué aussi à travers l'Ukraine. Bref, un ensemble de valeurs, dont l'Occident n'a d'ailleurs pas le monopole, mais qui ont inspiré le combat de l'Occident contre ses différents adversaires dont j'ai parlé au cours du XXe siècle. Ça, c'est pour l'Ukraine. Ensuite, nous avons le Sahel. Donc, cette région subsaharienne, merci, cette région d'Afrique, le Sahel, que vous avez bien identifié hein, par cette couleur sur la carte. Vous avez le Sahel. Alors, le Sahel, là, c'est l'Occident expulsé. Ce n'est plus l'Occident attaqué, encore que j'aurais pu prendre le même adjectif, c'est l'Occident expulsé. En 3 ans, une succession de coups d'État militaires. Alors, il y en a eu en Guinée, en dehors de la zone sahélienne. Il y en a eu 2 au Mali. Il y en a eu au Niger, au Burkina Faso. Voilà. 3 pays qui adhéraient depuis une dizaine d'années à ce qu'on appelle le G5 Sahel. C'est-à-dire un groupe de 5 pays, il faut y rajouter le Tchad et la Mauritanie, pour le moment non concernés par des coups d'État militaires voulant mettre les Français dehors. Ce G5 Sahel avait été formé en 2012-2013 face à la menace réelle de constitution d'un État djihadiste par un peu Al-Qaïda et ses partisans sur place, beaucoup Daesh, dans le nord du Mali, le nord du Niger, ainsi que dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso. Voilà. En gros, en 2013-2014, Daesh commence à essuyer des revers en Irak et en Syrie, dans son califat qu'il avait constitué à cheval sur les 2 pays, et d'ailleurs pour effacer des frontières qui avaient été tracées au début du XXe siècle par des Occidentaux. Daesh, sous les coups des Américains, sous les coups des Russes, sous les coups des autorités locales, sous les coups des Kurdes, Daesh reculait, et puis probablement de la désaffection d'une partie des populations locales. Daesh a vu dans le Sahel une sorte de deuxième chance. Profitant de la guerre civile en Libye, qui a créé un véritable chaos dans le pays et qui a permis des trafics d'armes et d'hommes, les milices, dits islamo-djihadistes, se sont abattues sur les pays du G5 Sahel. Et donc ces pays ont formé une sorte d'alliance qui reposait sur la coopération militaire française, la présence de bases, la présence de troupes, pour contrer cette menace djihadiste. Quand l'armée française a commencé à arriver à Bamako, la capitale du Mali, les troupes djihadistes étaient à peu près à la frontière entre cette zone de couleur et cette zone blanche. Autrement dit, ils occupaient déjà une bonne moitié du pays, et puis alors ils continuaient leur marche vers la capitale. Et un nouvel État islamiste, à des fins de terrorisme international, pouvait apparaître en plein cœur de l'Afrique. Et d'une certaine façon, l'armée française y a mis fin un peu in extremis. Enfin, y a mis fin. En tout cas, a refoulé cette menace vers le nord du pays. Voilà. Et puis après les coups d'État dont je vous ai parlé ces 3 dernières années au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les juntes militaires qui ont pris le pouvoir expulsent maintenant la France. Expulsent la France, menacent de remettre en cause un certain nombre d'accords de coopération économique, et accompagne ça de manifestations de foule conspuant les Français, avec des slogans souvent haineux, et en brandissant des petits drapeaux russes ou des pancartes sur lesquelles ils réclament la présence de la milice Wagner. C'est la situation aujourd'hui. Un Occident qui est expulsé, la France étant un peu le représentant de l'Occident dans ce qui était autrefois son précaré africain, l'Occident est expulsé et d'une certaine façon humilié aussi. Et les autorités françaises doivent reconnaître que bah, si les nouvelles autorités, même illégitimes, du pays demandent le départ et de l'ambassadeur et des troupes françaises, bah, y a qu'à s'incliner. Vous avez vu le baroud d'honneur par rapport à notre ambassadeur au Niger. Ben non, il va rester. Parce que seul le président légitime, qui est en résidence surveillée, pourrait demander son renvoi. Et puis comme des menaces pèsent sur sa sécurité, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est couché. Et l'ambassadeur est reparti, et tant mieux pour lui, à Paris. Voilà. Et puis il y a le troisième coin du monde. Il y a Taïwan. Il y a Taïwan. Merci. Il y a Taïwan. Là, je dirais, j'emploierai un troisième adjectif. Oh, j'aurais pu prendre les deux autres, mais histoire de différencier. Là, l'Occident est défié. Ah, c'est pas encore la guerre. Mais là, c'est le défi. L'Occident est défié. Depuis la guerre civile entre nationalistes et communistes en Chine qui s'est terminée en 1949, les communistes ont gagné. Proclamation 1949 par Mao Tse-tung de la République populaire de Chine. Mais le gouvernement nationaliste, qui avant dirigeait toute la Chine, s'est réfugié à Taïwan. Et la situation a perduré jusqu'à aujourd'hui. Les autorités de Taïwan ont d'ailleurs comme nom officiel gouvernement de la République de Chine, momentanément privé du contrôle de 95% de son territoire, momentanément depuis un peu plus de 70 ans. Mais ils se considèrent comme dépositaires de la légitimité d'un gouvernement chinois. Du côté de Pékin, ah, on dit un peu la même chose sur un point, il n'y a qu'une seule Chine, sauf qu'elle est communiste. Et que naturellement, comme après toute révolution, tout coup d'État ou toute guerre civile, quand un camp gagne, il gagne l'ensemble du pays. C'est une règle naturellement non écrite, mais c'est comme ça que très logiquement ça doit se passer. Donc, Taïwan doit faire retour à la République populaire de Chine. Sauf que entre-temps, et cet entre-temps c'est depuis 1949, Sauf qu'entre-temps, Taïwan est devenue une économie extrêmement, prospère. Vous avez ici la capitale, Taipei. C'est devenu une économie extrêmement prospère. C'est devenu ce qu'on appelle un des quatre dragons asiatiques, avec la Corée du Sud, avec Hong Kong en tant qu'entité économique séparée de la Chine, et avec Singapour. Taïwan, c'est aussi devenu, à partir des années 80, une authentique démocratie. Ce qui est vrai, ce qui n'a pas été le cas les 30 premières années après la guerre civile. Mais depuis les années 80, c'est devenu une démocratie. Et vous savez, la principale caractéristique d'une démocratie, en tout cas là où vous êtes sûr, à coup sûr, qu'il s'agit d'une démocratie, c'est pas quand il y a des élections toutes les X années avec des bulletins de vote différents. C'est quand l'opposition, de temps en temps, arrive au pouvoir. Là, vous êtes tranquille, vous avez démocratie. Quand les règles politiques, institutionnelles font que l'opposition peut arriver au pouvoir et devenir la majorité. C'est l'alternance qui, en fait, définit le plus sûrement la démocratie, plus que ses formes que sont le multipartisme. Parce que si c'est multipartisme, mais pendant 40 ou 50 ans, c'est toujours le même parti politique qui gagne, là, vous pouvez commencer à avoir un léger doute. À Taïwan, il y a eu des alternances, et il y a encore des alternances politiques, c'est une vraie démocratie pluraliste. Et puis il y a une dernière chose qui a changé à Taïwan. C'est que depuis les années 2000, de temps en temps, c'est un parti, et c'est le cas d'ailleurs en ce moment, c'est un parti indépendantiste taïwanais qui gagne. Et ça veut dire quoi? Et qui gagne sur le vieux parti nationaliste de Chiang Kai-shek qui était au pouvoir dans toute la Chine jusqu'en 1949. Indépendantiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce parti considère que la réunification des deux Chines au profit de Taïwan, c'est mort. Et que maintenant, il faut former un État séparé. Que d'une certaine façon, on forme une autre nation chinoise qui, même si elle partage la même langue que les Chinois du continent, qui sont présents à environ 130 km, on est devenu une nation distincte. Et que donc, il faut proclamer son indépendance et devenir République de Taïwan et non plus entretenir cette fiction de République de Chine. Ça, c'est un discours que Pékin ne veut pas entendre. Pékin aime finalement bien ses anciens rivaux nationalistes de Taïwan parce que eux, comme le Parti communiste chinois, n'ont en tête qu'une seule Chine. Alors chacun espérant à son profit. Mais au moins, c'est une seule Chine. Ce que disent les indépendantistes, c'est que c'est terminé. C'est qu'après plus de 70 ans de séparation, il y a une nation taïwanaise ayant des valeurs propres, et en particulier celle de la démocratie, qui font que c'est un autre corps national, et que maintenant, d'une certaine façon, Taïwan a droit à la décolonisation. Voilà. Comme la Chine ne l'admet pas, et bien depuis plusieurs années, et généralement à l'approche d'élections, pour influencer les électeurs à Taïwan, les Chinois organisent des manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan, entre la Chine continentale et cette île. Ils organisent des manœuvres. Lors de ces manœuvres, ils violent les eaux territoriales de Taïwan. Lors de ces manœuvres, ils font des exercices à blanc de tir de missiles au-dessus de l'île de Taïwan. Vous avez compris, c'est un défi, c'est de la provoque. Pour bien affirmer, mais nous sommes chez nous à Taïwan. Donc nous faisons des manœuvres absolument où nous voulons. Et avec ce que je vous ai dit en introduction, ce calendrier, qui ressemble fort à un compte à rebours, pour les 100 ans de la proclamation de la République populaire de Chine en 2049, nous aurons récupéré Taïwan. Un officiel chinois a même récemment dit que ce sera avant 2035. L'Occident est prévenu et mis au défi. Nous récupérerons Taïwan. Si ça ne se fait pas par la négociation avec les autorités de l'île, eh bien ça se fera d'une autre manière. Ça se fera par la force. Mais il y a une intégrité du territoire national chinois à défendre. Et sur cette intégrité nationale, nous sommes d'ailleurs d'accord avec les nationalistes chinois. Il n'y a que les indépendantistes qui finalement posent problème. Voilà. Taïwan n'est pas dans une alliance militaire occidentale. Mais Taïwan a signé des accords de défense et de sécurité avec les États-Unis. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Si la Chine attaque Taïwan d'ici 2049, l'Occident, et là en l'occurrence, non pas l'Europe mais les États-Unis, sont au pied du mur. Il y a deux solutions très simples, deux scénarios très simples. Si la Chine attaque Taïwan, scénario numéro 1, l'Amérique, après quelques protestations et sanctions économiques, laisse faire et laisse envahir le territoire de Taïwan. Là, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que la garantie militaire américaine dans le monde ne veut plus rien dire. C'est terminé. L'Amérique est battue sans avoir tiré un seul coup de fusil. Et d'une façon générale, l'Occident est vaincu. Ça veut dire qu'un coup de force peut se faire sans que l'Occident, représenté ici par les États-Unis, réagisse. Seconde possibilité, l'Amérique réagit militairement. Je vous rappelle que la Chine est détentrice de l'arme atomique. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Voilà. Donc là, il y a un risque naturellement de guerre majeure. Majeure. Alors vous allez me dire, les deux pays sont quand même responsables, ils se défient, ils se toisent comme deux coqs de village, mais ils éviteront quand même le pire. Très probablement. mais très probablement ne veut pas dire certainement. Parce qu'il arrive un moment en géopolitique où vous ne pouvez plus reculer par rapport aux déclarations que vous avez faites avant. Ça s'appelle brûler ses vaisseaux. Ça veut dire que vous vous êtes trop avancé et que si vous reculez, vous sautez politiquement. Si le Parti communiste chinois estime que sa légitimité peut être remise en question d'ici 2049 sur la question de Taïwan, je regrette de vous dire qu'il n'hésitera pas. Ce sera une question de vie ou de mort pour lui, et il attaquera Taïwan. Comment faire pour que cette question de Taïwan ne soit plus une question de vie ou de mort pour le régime de Pékin et que Pékin évite d'attaquer militairement Taïwan ? Je prends vos réponses à la fin de la conférence, je les envoie au département d'État à Washington, et vous en serez certainement remercié par un prix Nobel de la paix. Voilà. Voilà quelle est la situation. Ces événements à trois points du monde, finalement très éloignés, apparemment très différents, ont un point commun, et ce point commun, c'est d'une certaine façon la détestation par une partie du monde de ce que nous sommes, de l'Occident. Et oui, il y a des gens qui nous détestent, et qui nous détestent sans nous connaître, ou en nous connaissant, mais qui nous détestent. Je ne saurais dire s'ils sont majoritaires, je ne pense pas, mais ils existent, et ils veulent nous dire, et ils veulent d'une certaine façon nous défier, nous menacer. Et ce qui est inquiétant, dans le cas de l'Ukraine, nous attaquer et ne pas hésiter. Alors, quelles sont les raisons ? Et j'en viens maintenant à ma deuxième partie. Quels sont les facteurs ? Si j'ose dire, je pourrais dire pourquoi tant de haine ? Je vous les annonce à l'avance, je vois trois séries d'explications. Et puis, je vais les reprendre après vous avoir annoncé. La première raison, c'est qu'il y a un ressentiment anti-occidental qui est de nature anticolonialiste et anti-impérialiste et qui ne remonte pas d'ailleurs aux années récentes. La deuxième série de facteurs, c'est que l'Occident donne l'image d'un monde en déclin en termes de puissance. Et donc, d'une certaine façon, pour les adversaires stratégiques de l'Occident, c'est le moment d'y aller. C'est quand la bête commence déjà à décliner un peu. Et il se dit ici et là, à commencer par l'Occident lui-même, qu'il y a déclin. La troisième série de facteurs, c'est que peut-être le fardeau de la puissance ou de l'organisation du monde, est devenu trop lourd à porter pour une partie des Occidentaux eux-mêmes. Reprenons rapidement ces trois séries de facteurs, on pourra en débattre après. Première série de facteurs, il y a un ressentiment anti-occidental qui n'est pas nouveau. L'impérialisme européen dès le XIXe siècle. La colonisation européenne dès le XIXe siècle. La façon souvent non négociée et sanglante dont les décolonisations se sont parfois produites, tout ça a laissé des traces. Vous savez, William Faulkner disait, chose que j'aime beaucoup, il disait « Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. » Pour ces peuples, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, le souvenir de la colonisation est encore très vif. Je suis bien d'accord, il peut en plus être exploité, mais il est encore extrêmement vif. Et il est d'autant plus vif, et ça nous devons le savoir. Il est d'autant plus vif que la domination occidentale sur le monde, et pour un grand nombre de peuples, n'est pas terminée, et qu'elle n'a pas pris fin avec la décolonisation. Et qu'à cette période de colonisation a succédé une forme d'impérialisme, ou de néo-impérialisme, un ordre économique international injuste, voulant cantonner les pays du Sud à la fourniture de matières premières et réserver les produits manufacturés et les produits à haute valeur ajoutée au Nord, une DIT, comme on dit, une division internationale du travail injuste, une politique visant stratégiquement à conforter des alliés peu respectueux des droits de l'homme, j'ai nommé la France-Afrique, années 60, 70, 80, encore 90, voilà, où tout un réseau d'influence française s'est bâti sur, en tout cas jusqu'au début des années 90, sur la licence qui était donnée aux dirigeants locaux, pourvu qu'ils fussent pro-français, de bafouer les droits de l'homme, les droits et la prospérité de leur propre population. Parce que sinon, voyez-vous, sinon ce seraient les soviétiques, ou mezza voce pour la diplomatie française, ou les américains. On ne sait jamais avec les diplomates français ce qui est le pire. Cette caution donnée à de véritables kleptocraties, à des tyrans pillant les matières premières de leur propre pays en Afrique, à des tyrans bafouant les droits de l'homme au quotidien. J'ai pas besoin d'évoquer un certain nombre de noms, Bokassa, ou dans en Centrafrique, ou dans l'Afrique anglophone, en Ouganda, Idi Amin Dada, c'est dévorer une partie de ses opposants par des crocodiles. Enfin bon, j'ai pas besoin. Il y en a malheureusement plusieurs. Tous ces petits tyrannos locaux, petits mais sanguinaires, d'une certaine façon, ont reçu la caution de l'ancienne puissance coloniale dans le cadre de ce que l'on a appelé la France-Afrique. Ah ben parce qu'il y avait du business à faire avec eux, parce qu'on faisait des affaires, et puis parce que stratégiquement, il ne fallait pas que le pays tombe dans d'autres mains, encore plus mal intentionnées. Tout ça laisse des traces. Et imaginez bien que quand aujourd'hui les Européens s'émeuvent de la violation des droits des Ukrainiens par l'armée russe, je ne vais pas dire qu'une partie des Africains rigolent, mais ils considèrent qu'il y a deux poids, deux mesures. Et messieurs les Européens, balayez d'abord devant votre porte. La France-Afrique, c'était encore hier. Donc il y a un certain nombre de ressentiments, et je n'ai parlé que de la France, mais je pourrais parler des États-Unis, du rôle de la guerre d'Irak en 2003, quand sur un mensonge éhonté, l'administration américaine, tenue par ces gens qu'on appelait les néoconservateurs, ont décidé d'attaquer l'Irak parce qu'elle aurait possédé des armes de destruction massive, ce qui s'est avéré être faux. Alors on est bien d'accord que le dictateur à la tête de l'Irak à l'époque, Saddam Hussein, ne valait pas un clou. Mais c'est pas parce que les gens ne veulent pas un clou qu'il faut bafouer le droit international et faire un mensonge d'État. Les Américains ont attaqué l'Irak sans passer par l'ONU, sans passer par le Conseil de sécurité. Ils savaient qu'il y aurait un veto russe et un veto chinois pour attaquer l'Irak. Donc ils ont squeezé le Conseil de sécurité et ils se sont livrés à une sorte de politique de la canonnière en Irak. Comment voulez-vous que ces comportements néo-impérialistes américains en Irak, que ces comportements néocolonialistes de la France dans le cadre de la France-Afrique ne laissent pas des traces, ne laissent pas des ressentiments. Et un géopoliticien, Pierre Asner, a écrit des livres sur la géopolitique du ressentiment. N'oublions pas que ce sont sur des ressentiments, de même type que Hitler, dans l'entre-deux-guerres, a bâti sa carrière politique. Ça, c'est la première série de facteurs. Occident, d'une certaine façon, coupable, levez-vous. Il y a une deuxième série de facteurs qui est que l'Occident apparaît en déclin, c'est-à-dire impuissant. Alors vous additionnez les deux, vous voyez le résultat. Ils sont malfaisants, donc il faut s'en débarrasser, et en plus on peut le faire parce que l'Occident est en déclin. Occident en déclin, Occident en déclin. Les pays du G7, qui rassemble les principales économies occidentales des pays du Nord. Les pays du G7 représentaient, il y a 30 ans, 45% du PIB mondial. Aujourd'hui, 30%. Les pays appartenant aux BRICS, vous savez, ce sigle qui associe B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine et S pour South Africa, Afrique du Sud. Les pays des BRICS, ce qu'on appelle parfois les pays émergents, les pays des BRICS, et qui ne nourrissent pas des sentiments très tendres envers les Occidentaux, les pays des BRICS représentaient 15 à 20% du PIB mondial il y a 30 ans, aujourd'hui 30. C'est-à-dire qu'ils ont rattrapé les pays du G7.
Plus en 2024.
Oui. Et en plus, l'année prochaine, il y aura 6 adhérents supplémentaires aux BRICS. Et parmi eux, des pays aussi bien intentionnés envers l'Occident que l'Iran, par exemple. Il y aura l'Iran, il y aura l'Arabie Saoudite, il y aura les Émirats Arabes Unis, il y aura l'Argentine, absolument, il y aura l'Égypte et il y aura l'Éthiopie. Trouvez pas beaucoup de pays respectueux des droits de l'homme là-dedans. Comment ?
L'Algérie.
L'Algérie, pour le moment, d'accord, n'est pas, si j'ose dire, dans la prochaine fournée des BRICS. Voilà. Y a un rééquilibrage de la puissance économique dans le monde. Et d'une certaine façon, comme l'économie est un des nerfs de la guerre, de la puissance géopolitique aussi. Les pays occidentaux apparaissent comme en déclin, peut-être pas en valeur absolue, mais en déclin relatif. Il y a tout un monde, dans ce qu'on appelle le sud global maintenant, autrefois on disait le tiers-monde, maintenant on dit le sud global, il y a tout un ensemble de pays dans le sud global qui sont en train de nous rattraper. Et naturellement, le porte-fanion, le porte-étendard de ce groupe, ça ne peut être que la Chine elle-même. D'ores et déjà deuxième puissance économique du monde. D'ores et déjà. Et l'ouverture de la Chine à la mondialisation, ça a 40 ans. Donc en 40 ans, de petits pays ateliers fabriquant des trucs de plus ou moins bonne qualité, ils sont devenus la deuxième économie mondiale. Et encore, en termes de PIB, parité de pouvoir d'achat, c'est un peu technique. Certains statisticiens les mettent même devant les États-Unis. En tout cas, vous pouvez être tranquille, en 2049, la Chine, au rythme actuel, et sauf événements imprévisibles par mois, la Chine sera la première puissance économique du monde. Mais il ne s'agit pas que d'être une puissance économique. La Chine ne veut pas forcément la guerre. Enfin, je reprendrai une expression de Henry Kissinger à propos de l'URSS à l'époque. La Chine ne veut pas la guerre, sauf peut-être à Taïwan. La Chine ne veut pas la guerre, mais elle veut le monde. C'est-à-dire, elle veut le résultat d'une guerre, et si possible, sans la faire. Ce qui, en plus, est bien dans la tradition des stratèges chinois, y compris du Moyen-Âge. Elle veut le monde, ça veut dire quoi ? Ben, vous connaissez le projet des nouvelles routes de la soie. On veut créer des infrastructures, en particulier de transport, financées par des capitaux chinois, dans des pays du sud global, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud, d'Afrique. On leur accorde des prêts très généreusement, et en échange, on attend juste qu'ils rompent leurs relations diplomatiques avec Taïwan et ne reconnaissent que la Chine de Pékin, et naturellement c'est implicite qu'ils achètent des produits manufacturés chinois. Et vous savez, dans ces routes de la soie, et effectivement, qui concerne une bonne partie de l'Asie du Sud-Est. On considère par exemple aujourd'hui que le Laos, merci d'avoir focalisé là-dessus, on considère que le Laos est une quasi-colonie économique chinoise. Avec d'ailleurs colonie dans tous les sens du terme, puisqu'il y a de la main-d'œuvre, des cadres, il y a de véritables colons chinois qui font venir leur famille et qui font souche sur place. Voilà. Il y a la puissance économique, il y a la puissance géopolitique aussi. Une quinzaine de pays d'Europe centrale et orientale et certains membres de l'Union européenne ont adhéré pour partie au projet des nouvelles routes de la soie. Parce que, et ça s'appelle le consensus de Pékin, Pékin ne leur demande aucune contrepartie, aucune condition en termes de nature de leur régime politique. Ce n'est plus la diplomatie maoïste militante et sur-idéologisée des années 60 et 70. Le consensus de Pékin, c'est un peu comme la pub pour McDo, hein, venez comme vous êtes. Vous êtes des démocraties, ça nous va. Vous êtes des dictatures, ça va. Vous êtes des régimes hybrides entre les deux, mais ça nous va. Non-ingérence dans les affaires intérieures. Nous, c'est juste le commerce. Et cette domination commerciale, alors imaginez que ce discours puisse être séduisant pour certaines dictatures des pays du sud global. On ne leur demande pas de compte en matière de respect de l'état de droit. Et puis ça va plus loin que ça, le rêve chinois. Le rêve chinois, c'est de mettre le monde aux normes chinoises. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde doit apprendre l'alphabet du droit commercial, du droit pénal, du droit international, l'alphabet chinois. Mettez-vous à notre alphabet, notre grammaire. Ce sont désormais nos principes dont vous allez devoir, comment dire, que vous allez devoir prendre en compte. Voilà. Tout ça apparaît comme pour un certain nombre de pays du sud global, comme une libération définitive par rapport à l'Occident. Et un Occident qui apparaît comme faible. Un Occident qui apparaît comme désarmé. Je donnais tout à l'heure les chiffres à propos de la présence militaire dans le cadre de l'OTAN en Europe. Un Occident qui, fait le lien avec l'agression de l'Ukraine par Vladimir Poutine, un Occident qui, en 2021, par Américains interposés, évacue l'Afghanistan et permet du même coup, quelques jours après, le retour des talibans, du fondamentaliste musulman taliban, au pouvoir. Un nouveau Vietnam pour les États-Unis. L'Occident est faible. L'Occident, nous avons du ressentiment contre lui, et en plus, il est en déclin relatif. C'est le moment de l'attaquer. Et puis, j'ai pas fini. Il y a la troisième série de facteurs que je vous ai annoncé. Un Occident qui ne croit peut-être plus en lui-même, ni en sa volonté de puissance ou d'organisation du monde. Je vous cite juste une thèse à ce sujet, qui est déjà un petit peu ancienne, qui remonte aux années 90. C'est celle d'un professeur américain qui s'appelle Kagan, qui est mort l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et la thèse du professeur Robert Kagan était la suivante, le titre français de son œuvre choisi par l'éditeur a été « Les Américains sont de Mars et les Européens de Vénus ». J'explique rapidement. Les Américains sont venus de Vénus, déesse de l'amour. Allez, je géopolitise, du soft power. Jusqu'à la guerre de 14, et depuis leur indépendance, ils se contentaient de traités de commerce, et pour le reste, ils étaient isolationnistes. Et puis les circonstances du XXe siècle les ont amenés à exercer des responsabilités militaires, probablement par défaut de l'Europe, d'ailleurs, et de sa capacité à réorganiser le monde, et ils sont venus des détenteurs du hard, quitte à l'utiliser à tort à travers. Les Européens, eux, viennent de Mars, le dieu de la guerre. Ils viennent du hard power. Pas besoin de vous faire un dessin sur les guerres en Europe depuis la guerre de Troie, même si ce n'était pas exactement en Europe, jusqu'aux 2 guerres mondiales, qu'on peut lire comme des guerres civiles européennes. Les Européens viennent du hard et ils sont passés au soft. Les valeurs de la paix, les valeurs de la paix par le commerce, de la négociation, de l'influence culturelle. Bref, tout ce qu'on appelle le soft power. Et pourquoi, dit Kagan ? C'est très simple. C'est parce que les Européens, ayant décliné au cours du premier XXe siècle, après les 2 guerres mondiales, puis la décolonisation, eh bien, ils ont fait de leur faiblesse une théorie. Ils sont devenus faibles. Alors, ils ont abjuré le hard power et ils sont venus des théoriciens du soft, bien protégés par le parapluie militaire américain dans le cadre de l'OTAN. Tiens, significatif, les pays d'Europe centrale et orientale, ex-communistes, vous savez à quelle organisation dans les 10, 20, 30 ans après le communisme, à quelle organisation ils ont adhéré en priorité? Pas à l'Union européenne. Tous, sans exception. Ils ont adhéré d'abord à l'OTAN. À quelques mois ou à quelques années près, mais tous, ils ont d'abord adhéré à l'OTAN. Ils ont adhéré à l'OTAN, pourquoi? Parce que le véritable parapluie, c'est l'OTAN, et puis ça coûte moins cher. Les Américains font chaque année entre les 2/3 et les 3/4 du chèque pour assurer la sécurité de l'Europe. L'OTAN s'est rêvé. Alors qu'il n'y a que la France, depuis le général de Gaulle, qui a pris ses distances parce qu'elle a l'arme atomique. Mais la France est toute seule là-dedans. Allez parler de souveraineté militaire européenne ou d'Europe de la défense aux Danois, aux Hollandais, aux Belges, aux Luxembourgeois. Ils vont vous dire, mais quelle défense européenne? Nous, on a l'Amérique. On a le parapluie militaire et nucléaire américain. Et ça nous suffit. Et puis en plus, ils prennent en charge les dépenses. Comme s'il y avait une sorte de fatigue pour l'Europe, et bien légitime après toutes les guerres du passé, les deux guerres mondiales, une fatigue de vouloir exercer dans tous ces compartiments la puissance. Et puis cette fatigue de la puissance, je terminerai mon deuxième point avec ça, elle s'étend même de temps en temps aux États-Unis. Donald Trump, ça vous dit quelque chose? Il a été président des États-Unis. Et sa ligne, c'était America First, c'est l'isolationnisme. Et Trump. Et puis, si vous avez aimé Trump 1, peut-être allez-vous adorer Trump 2 à partir de l'année prochaine. Parce qu'il ne désarme pas. Et il ne désarme pas pourquoi? Mais parce que vous avez une grande partie des Américains qui ne comprennent pas pourquoi on continue à financer la protection de l'Europe avec une Europe qui crache, excusez-moi l'expression, à la gueule des Américains. Quand les Américains en font un peu trop en matière d'intervention militaire ou d'impérialisme. Comme a dit un jour un diplomate américain, hein, nous avec les Européens, c'est « damned if we do, damned if we don't ». Quand nous ne faisons rien, nous sommes accusés d'égoïsme isolationniste, et quand nous faisons, les Européens hurlent à l'impérialisme. Ben, Trump dit que les Européens aillent se faire voir. Et il exige que les Européens montent leurs dépenses militaires et fassent une plus grosse partie du chèque. Et que ce ne soit pas le contribuable américain qui paye pour la défense d'Européens qui, en plus, de temps en temps, crache à la figure des Américains. Et Trump avait même menacé, lors de sa première campagne électorale, de sortir les États-Unis de l'OTAN. Application concrète aujourd'hui, je regardais le titre du Monde ce soir. La question du désengagement militaire américain de l'aide à l'Ukraine est désormais ouvertement posée. Et avant même l'élection de Trump. Avec des Américains tenant aux Européens le discours suivant, l'Ukraine c'est en Europe, pourquoi ce serait à nous de soutenir à bout de bras militairement l'Ukraine? Nous, nous aurons peut-être besoin de le faire à Taïwan dans quelques années. Il y aura beaucoup d'Européens qui voudront mourir pour Taïwan ou payer pour Taïwan libre? Non. Non, on ne se fait aucune illusion à Washington. C'est nous, Américains, qui devrons faire le travail. Alors maintenant, peut-être le temps est-il venu de vous, Européens, de prendre le relais à propos de l'Ukraine. Vous imaginez le défi. Vous imaginez le défi, sachant que jusqu'à présent, plus de 60% du matériel militaire fourni à l'Ukraine et qui lui permet de tout juste tenir, et pas de récupérer la totalité de son territoire envahi, mais de tout juste tenir vient des États-Unis. Vous imaginez que si les États-Unis se retirent de l'affaire, les Européens pourront suppléer? Alors ils le disent. Enfin, je peux vous dire que le président Zelensky est quand même sacrément inquiet. Et l'inquiétude est d'autant plus forte que c'est même pas avec Trump à la Maison-Blanche que ça se dit. C'est dès maintenant, dans la classe politique américaine. America first. Voilà, pour les facteurs. Troisième et dernier point de mon entretien, je suis un petit peu long, je vous prie de m'excuser. Troisième et dernier point, mais L'Occident n'a peut-être pas dit son dernier mot. Parce que si je m'arrête là, vous allez être consterné et vous demander pourquoi vous n'êtes pas pour regarder mon âge aujourd'hui. Et je ne veux pas vous laisser sur une mauvaise. Donner peut-être une petite note d'espoir. Troisième point, l'Occident n'est peut-être pas complètement foutu par rapport à tout ce que je viens de dire. Peut-être pas complètement foutu pour trois raisons, que je vais aborder très rapidement. La première raison, c'est que les adversaires de l'Occident, les adversaires stratégiques, géopolitiques, économiques, ne forment pas un bloc et ont eux-mêmes des problèmes. La croissance économique chinoise est de plus en plus en panne. Nous ne sommes plus comme il y a 10 ans avec des taux de croissance à 2 chiffres. Si la croissance économique chinoise continue à ralentir, si la bulle immobilière qui menace d'exploser en Chine éclate, ça veut dire que la légitimité du Parti communiste au pouvoir est sérieusement entamée. Car c'est le business qui est pour l'essentiel, avec le nationalisme par rapport à Taïwan, l'un des piliers de la légitimité du gouvernement de Pékin. Ce n'est plus le communisme et depuis longtemps. Même s'ils le disent officiellement. La Chine connaît des problèmes. Et surtout, ces pays ne forment pas un bloc. Je prends les deux premiers BRICS par ordre d'importance, Chine et Inde. Vous connaissez les relations entre la Chine et l'Inde. Elles sont exécrables. Elles sont faites de méfiance. Ils ont un contentieux territorial portant sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. C'est pas rien. Ce sont deux puissances nucléaires qui se toisent. Ce sont deux puissances démographiques qui mettent un point d'honneur à dépasser l'autre en nombre d'habitants. Et c'est fait pour l'Inde cette année par rapport à la Chine. Un peu plus d'1,4 milliard d'habitants. Les Indiens sont très inquiets de ce qu'ils appellent la stratégie du collier. Je veux bien le planisphère, merci. Les Indiens sont très inquiets de ce qu'ils appellent la stratégie du collier de perles chinoise autour de l'Inde. C'est-à-dire que l'Inde implante des bases, des pistes d'atterrissage sur toutes les îles qui sont là. Le week-end dernier, c'est un candidat pro-Pékin qui a battu le candidat pro-indien aux élections présidentielles aux Maldives. C'est pas anodin. Il y a la Chine derrière tout ça. Et l'Inde se voit encerclée au nord par la Chine et son allié pakistanais, allié de la Chine uniquement parce que les Pakistanais ont un antagonisme historique avec les Indiens. Et puis elle se voit menacée au sud par la stratégie dite du collier de perles chinoise. Alors, ils siègent tous les deux dans les BRICS. Mais ils ne peuvent pas former un bloc. Ils ne peuvent pas former un bloc aussi solide que l'OTAN ou que l'Union européenne. Ils sont très inquiets. Et ça a d'ailleurs une conséquence. C'est que l'Inde a développé ces dernières années un nouveau concept géopolitique. Elle ne parle plus de bloc, même anti-occidental. Elle parle de multi-alignement. C'est-à-dire des partenariats à géométrie variable. Dans tel domaine, on va être allié aux occidentaux. Par exemple, pour contrer la Chine. Et puis dans tel autre, on sera allié de la Chine. Pour contester la domination occidentale. Et ainsi de suite. Multi-alignement. Multi-alignement, ça veut dire que les adversaires de l'Occident ne sont pas capables de former un véritable bloc. Et même entre la Chine et la Russie. À propos de l'Ukraine, vous avez remarqué que le soutien de la Chine à la Russie est quand même extrêmement mesuré. Parce que si la guerre se prolonge, c'est mauvais pour le commerce international, c'est mauvais pour les chaînes de valeur. Ça, les Chinois ne veulent pas en entendre parler. En même temps, ils ne veulent pas non plus que l'Occident gagne trop dans l'affaire ukrainienne. Alors, politique de bascule. Deuxième motif de se rassurer, peut-être, pour l'Occident, c'est que l'Occident, figurez-vous, est encore puissant. Les États-Unis sont toujours, et de loin, la première puissance militaire du monde. Les États-Unis, chaque année, c'est le double des dépenses militaires chinoises qui arrivent en deuxième. L'Amérique est toujours en tête. les États-Unis sont le seul pays au monde à pouvoir mener ce qu'on appelle deux guerres et demie, c'est-à-dire deux guerres réelles plus un conflit de basse intensité. Ils ont une capacité de projection qui est unique au monde. L'armée chinoise, très bien pour le collier de perles, pour s'approprier des zones maritimes en mer de Chine méridionale, d'ailleurs illégalement, créer des îlots artificiels où on plante le drapeau chinois. Très bien. Mais l'armée chinoise, on ne sait pas ce qu'elle vaut. Et vous savez pourquoi? C'est très simple. Parce qu'elle ne s'est jamais battue. Et une armée qui ne s'est jamais battue, on ne sait pas ce qu'elle vaut. On ne sait pas sur le plan opérationnel ce qu'elle peut donner. Les Américains, on connaît leurs limites. On connaît aussi leur potentiel. Voilà. Il faut dire qu'à Pékin, on ne souhaite pas un affrontement militaire direct avec les États-Unis, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Bon. Les 44 pays qui, dans le monde, ont voté des sanctions économiques contre la Russie pour cause d'agression de l'Ukraine représentent 60% du commerce international, 60% de la production mondiale, 80% de l'investissement mondial et 90% des réserves monétaires mondiales. L'Occident est peut-être en déclin, mais c'est une vieille dame qui a encore de beaux restes, si on peut dire. Et que dire des aspirations à la démocratie, de type occidental? Dans un certain nombre de pays, sous le joug, ou régions, sous le joug de la Chine, de la Russie, etc. Que dire de la capacité de l'Occident, et même, ça ne m'arrivera pas souvent, mais pour une fois, de parler de l'Amérique de Trump en termes de succès, les accords d'Abraham au Moyen-Orient, traité de paix et normalisation des relations entre les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc avec Israël, qui rejoignent la Jordanie et l'Égypte, qui par le passé ont déjà signé des traités de paix. Et l'Arabie Saoudite aujourd'hui est très tentée de rejoindre les accords d'Abraham. La diplomatie occidentale a encore une force attractive. Et je ne parle même pas de tous ces pays candidats qui toquent à la porte de l'Union européenne. Voilà. Dernier point, qui peut encore faire espérer, et si, en particulier, l'invasion de l'Ukraine, depuis l'année dernière, avait provoqué une sorte de prise de conscience et de renaissance européenne. Je n'en sais pas plus que vous sur la suite. Je constate juste ce qui se passe depuis un an. Depuis un an, il se passe que tous les pays de l'Union européenne, ou presque, sauf les tout petits, s'engagent à ce que leurs dépenses militaires représentent 2% du PIB. Ce qu'exigeait, il y a une dizaine d'années, Donald Trump pour prix de sa participation à l'OTAN. La Pologne est en voie de consacrer 4% de son PIB aux dépenses militaires. Parce que naturellement, elle se dit qu'après l'Ukraine... Merci. Elle se dit qu'après l'Ukraine, si la Russie gagne, elle pourrait y être sur la liste. Les républiques baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, déjà largement au-dessus de 2% du PIB en termes de dépenses militaires. La Pologne est en train de devenir une des puissances militaires, pas mondiales, régionales, les plus importantes d'Europe. L'Allemagne réarme. Mais ça, c'est une bombe. Et ça, d'une certaine façon, c'est grâce à Poutine. Mais l'Allemagne réarme. L'Allemagne qui vomissait le hard power, parce qu'évidemment, il y avait les souvenirs du nazisme. Et parce qu'en plus, il y avait la protection américaine. L'Allemagne réarme. Et il y a un programme de réarmement massif. Naturellement pour se protéger face à l'éventuelle menace russe. Le président Emmanuel Macron parle même d'une souveraineté stratégique européenne, d'un pilier européen de l'Alliance Atlantique. Bon, les Européens ne sont peut-être pas si défaitistes, si munichois, comme disaient les Soviétiques pendant la guerre froide, ne sont pas des idiots utiles du pacifisme. En conclusion, si on fait un bilan de tout ça, la première chose, je l'ai évoqué un moment, il y a une partie du monde qui ne nous aime pas. Il faut le savoir. Il ne faut pas non plus en exagérer l'importance. Les dirigeants au Sahel, issus des coups d'État militaires qui nous foutent dehors et qui réclament la milice russe Wagner à la place, ces dirigeants sont-ils représentatifs de l'ensemble de la population des États sahéliens? Je ne peux pas dire, mais certainement non. Je ne sais même pas s'ils en représentent la majorité, parce que le problème avec une junte militaire, c'est qu'elle n'organise pas d'élections et qu'on ne peut pas savoir l'avis de l'opinion publique. Attention aux effets de loupe médiatique. Vous voyez depuis quelques semaines, au Mali, au Niger, des gens qui brûlent des drapeaux français, qui piétinent le portrait de Macron, qui réclament les Russes, etc. Représente-t-il la majorité de la population de ces États sahéliens? Impossible de le dire. Impossible de le dire. Mais, il y a une partie du monde qui ne nous aime pas, qui a de la rancœur envers nous, qui a du ressentiment, et qui considère que de toute façon, on est déclinant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la stabilité du monde, un ordre géopolitique stable, c'est peut-être une illusion. Et qu'il va falloir apprendre à vivre, non pas avec le Covid, mais avec cette instabilité. L'instabilité dans l'histoire est peut-être la règle. Et la stabilité, l'exception. Il faut être agile. Il faut être résilient. Il faut s'adapter. Les Occidentaux ont peut-être trop pensé graver dans le marbre un ordre mondial stable, là où l'instabilité est peut-être la règle historique. Troisième et dernière remarque, en termes de volonté de puissance, Nietzsche, dans l'Antéchrist, écrivait que quand il y avait refus de la volonté de puissance, là, il y avait déclin. Une partie de l'Occident est fatiguée du fardeau de la puissance. Une culture de paix, et d'une certaine façon, c'est très honorable, s'est répandue dans nos sociétés. Enfin, vous connaissez le vieux principe romain, si tu veux la paix, prépare la guerre. L'Occident commence peut-être à comprendre que tout en étant pacifique, on peut réarmer. Que la capacité à imposer ses choix, à imposer son indépendance, est parfaitement estimable. Les Occidentaux ne doivent peut-être pas faire les malins par rapport à leur passé envers les États d'Afrique, envers les États d'Asie. Enfin, ils n'ont peut-être pas non plus à s'auto-flageller. Bilan de la colonisation est contrasté. Il faut juste assumer l'ensemble, le savoir, et puis, je terminerai avec ça, comme disait le président Theodore Roosevelt, l'oncle de Franklin Roosevelt, au début du XXe siècle, il faut parler d'une voix douce, mais avec un gros bâton à la main. Je vous remercie de votre attention.